Mimi, sorte tes aiguilles et ta laine, il va me falloir un bonnet.
Oula, ça a l'air urgent.
J'ai les oreilles gelées, j'ai peur de perdre l'audition, de ne plus jamais pouvoir écouter l'agité du local.
Et ne plus entendre mes mots doux, ça ne t'inquiète pas.
Il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ça me démange. Les bonnes années, bonne santé, meilleurs vœux, ça m'embête un peu. C'est vrai, c'est gentil, bienveillant, très poli, trop poli sans doute. Par contre, ce qu'on se souhaite et ce qui arrive vraiment, le fossé est parfois trop grand. On tend à mieux qu'un projet de bonne résolution, qu'un espoir de tout ira bien, il faut du concret, du palpable. Et si je vous parle de concret, c'est parce que ça y est, c'est tombé. La vraie bonne nouvelle, elle est là. Les quatre premiers noms du festival au fond de la rue sont annoncés. Et avec moi, aujourd'hui, pour parler de ce festival et pas seulement, Ingrid Strebinger, coprésidente de l'association Au Foin de la Rue. Ingrid, bonjour.
Bonjour.
On échange ensemble dans quelques instants. Bienvenue amis auditeuristes dans l'agité du local et bonjour à toi Lucie.
Bonjour.
D'ailleurs Lucie, tu continues la découverte de la Mayenne et tu nous emmènes aujourd'hui avec toi à Cossé-le-Vivien au musée Robert Tatin.
Tout à fait.
Et le mercredi, on repart jamais sans rien, surtout pas avec la chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne de Jean-Michel Guinaudot qui nous glisse toujours 2-3 conseils bien utiles. On le retrouve à 12h40, restez bien avec nous. Je le disais tout à l'heure, Ingrid, vous êtes la coprésidente de l'association Au Foin de la Rue. Cette année, ce sera la 23e édition de ce festival que vous connaissez tous très bien dans le Nord Mayenne. Je vous parle donc de Sainte-Nigatine. Je le disais, Ingrid, Au Foin de la Rue, c'est un festival éthique et éclectique. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas seulement les grands noms déjà connus de tous, mais vous cherchez aussi à mettre en avant des groupes ou artistes émergents. Mais éthique, qu'est-ce qu'on attend d'un festival éthique ?
Alors, sur le volet éthique, on va avoir tout ce qui est le développement durable, le respect des personnes, l'accessibilité pour tous. Et du coup, nous, on se met un point d'honneur à mettre tout ça en œuvre chaque année, le développer. On a été même précurseurs sur certains volets, comme l'accessibilité pour tous. Donc voilà, et après dans le choix des groupes également, on va aussi faire attention à leurs valeurs, à ce qu'ils représentent, donc on ne fait rien à la légère, on essaye d'en avoir pour tout le monde. Et en effet, le but pour nous n'est pas forcément d'attirer le plus gros nom, bon, déjà parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'a pas les moyens, mais aussi surtout parce que c'est hyper important pour nous de pouvoir permettre d'ouvrir la scène à tous ceux qui ont quelque chose à dire.
En décembre, effectivement, aucun groupe ou artiste n'était encore annoncé, mais il y a moins d'une semaine, les quatre premiers noms parmi les artistes qui monteront sur la scène Au Foin de la Rue sont sortis. Donc le festival aura lieu le 5 et 6 juillet. Et là, effectivement, on est sur des styles musicaux très différents. On parle là de Chinese Man, Deluxe, La Fève et Patrice.
Voilà, bah c'est ce qu'on met dans éclectique, c'est qu'on a envie de s'ouvrir aussi à tous les goûts et il y en a pour ceux qui aiment le rap, ceux qui vont aimer le reggae ou la pop. Ça permet aux familles de se réunir, de pouvoir profiter. Moi, si je viens avec mes enfants, je pense qu'on n'ira pas devant les mêmes scènes, mais j'irai peut-être découvrir ce qu'ils ont envie d'écouter. Donc vraiment, on est dans de la découverte et l'ouverture et de l'accès pour tous, musical aussi, culturel.
Notamment, du coup, toutes les générations. L'idée de départ du festival, c'était de faire venir la culture en zone rurale. Plus de 20 ans après, est-ce que le festival a encore des choses à prouver ? Je vous pose la question, puisque le 1er décembre, vous avez proposé une offre exceptionnelle de Noël à 50 euros le pass deux jours. Et en 6 heures, sans aucun nom d'artiste encore annoncé, le nombre de passes pour cette offre était déjà épuisé. C'est un public qui a donc toute confiance en votre programmation.
C'est la richesse d'être dans un milieu festival rural. Ça nous permet d'être une grande famille. En fait, on a des gens qui viennent chaque année, quels que soient les noms qui seront annoncés. C'est peut-être ceux-ci qui ont sauté sur l'occasion de pouvoir profiter et d'offrir pour faire découvrir aussi, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de cadeaux de Noël faits comme ça. Mais vraiment, il y a cette richesse. Tout le monde se connaît. Énormément de bénévoles, donc aussi ça nous permet de toucher, quand on croit un festival, on invite nos amis, nos familles à participer. Donc aujourd'hui on est 1200 bénévoles sur le festival, 50 à l'année, où on agit pour pouvoir mettre en place et faire vivre ce festival, le faire survivre pendant le Covid et aujourd'hui continuer de le faire vivre. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir un autre rapport à l'autre, quelque chose d'humain en fait. C'est une taille humaine de festival. Les gens peuvent venir avec leurs enfants. Encore l'année dernière, devant Big Fleu au lit, il y avait beaucoup de jeunes enfants. Et je pense que tout le monde est reparti avec son enfant sans qu'on sente qu'il y ait eu quoi que ce soit de grave à se passer.
Et donc, je le disais, on parle d'amener la culture en zone rurale. Pour vous, c'est important justement de maintenir cette dynamique culturelle dans nos campagnes ?
Bah oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, on se rend bien compte que sur les gros événements ou alors dès qu'on veut avoir accès à la culture, il faut vite se déplacer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se déplacer. Et en plus, quand on fait des choix écologiques aussi qui nous entraînent vers des restrictions pour certains. Donc, c'était de pouvoir amener ça dans notre zone rurale, faire vivre un petit village de 1500 habitants à l'année. Un gros festival où on a environ 15 000 festivaliers début juillet, c'est quand même super chouette.
Le 15 décembre, voilà, vous avez annoncé le rachat d'un ancien garage qui deviendra la station du foin de la rue, dans l'idée d'y accueillir justement les activités de l'association. Pour le moment, il y a encore des travaux donc pour la rénovation et l'aménagement du lieu. Et vous avez donc lancé une campagne de dons avec un objectif de 10 000 euros pour vous soutenir sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce projet de rachat ?
Oui, alors bah, du coup, depuis 2015, en fait, on réfléchit à ce projet. Donc d'acquérir un bâtiment pour pouvoir développer notamment tout ce qui est les ateliers. Et puis après, c'est une notion de mutualisation aussi, donc location, prêt de matériel. Voilà, donc il y avait plein d'idées à revisiter. Et donc il y a eu une envie de faire un tiers-lieu avec la commune de Saint-Denis. Malheureusement, le bâtiment qui avait été choisi était trop petit pour accueillir des ateliers et la confection d'ateliers en extérieur trop onéreuse. Donc, on a abandonné le projet en 2020. 2021, on a acheté du coup un ancien garage agricole qui correspondait aux critères, en plein centre de Saint-Denis, et puis avec de la surface. Et donc là, ça a été vraiment le début d'une grande aventure. Donc là encore, on est déjà à 600 heures bénévoles sur la réflexion, le suivi de chantier, et puis également déjà de la démolition, puisqu'on a obtenu des permis pour pouvoir démolir avant de construire. Et puis également un gros enjeu financier. Donc il faut savoir qu'à peu près, sur l'investissement du bâtiment, on est à peu près à 65 000 euros. C'est 75% des fonds qui sont en subvention avec les fonds leaders et la Comcom de Lernay. Et puis après, il y a tout ce qui est les travaux de rénovation et d'aménagement. On va être sur des budgets de 660 000 euros. Donc là encore, on est sur 70% d'aide. Donc entre la CAF de la Mayenne, la FNADT, alors Fonds d'aménagement du territoire. Et voilà, on a eu pas mal de subventions et notamment le label de manufacture de proximité qui nous ont permis de monter le projet financièrement. Et aujourd'hui, on avait aussi envie d'y adjoindre tout le monde, tous ceux qui ont envie de s'approprier un petit peu de ce projet des foins, dont cette campagne de dons. Donc c'est une manière d'y participer. On peut aussi participer en donnant du temps et en venant nous aider, ça, on peut toujours, les bénévoles. Mais ça va nous permettre aussi de pouvoir équiper les ateliers pour pouvoir après, derrière, mettre en place des ateliers accessibles à tous, notamment sur de la scénographie ou autre, quoi.
Et donc, vous parliez justement de l'association, de vous soutenir. On peut vous soutenir en tant que bénévole parce qu'il faut savoir qu'il y a donc une équipe salariée dans l'association, mais il y a aussi un grand nombre de bénévoles à différents temps de l'année puisque vous organisez différents événements dans l'année.
C'est ça. Donc, en fait, on a 4 salariés qui sont là à l'année, plus après, on fait appel à de l'intermittence, donc des gens qui viennent ponctuellement à certains moments clés. Voilà. Et puis, on va avoir une cinquantaine de bénévoles, comme moi par exemple, qui œuvrent toute l'année pour faire vivre l'association, mettre en place des choses, réussir à avoir un vrai rayonnement sur le territoire et du coup entretenir des partenariats locaux. Comme là par exemple, notre prochain événement, c'est la soirée des 3 heures du coup à Lernay, en partenariat du coup avec la Comcom de Lernay. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on a envie de pouvoir faire. Pouvoir avoir plusieurs propositions sur le territoire, faire vivre le local. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on est 1200 pendant le festival. Donc là, c'est vraiment le gros moment de retrouvailles de toute la famille.
Donc un événement qui est vraiment porté par les habitants du territoire. Vous parliez donc de ce prochain événement qui arrive en février, les 3 heures. Oui. Vous avez également accueilli si je ne me trompe pas, c'était en octobre pour le nouvel événement que vous organisez sur le territoire au coin du foin.
Oui.
Ce prochain événement en février, les 3 heures, en quoi il consiste exactement ?
Alors donc là, c'est un partenariat sur 2 concerts qui ont lieu à l'espace Clair de Lune. Donc on va recevoir DJOJ Orchestra et... j'ai oublié le nom, l'excité, pardon. Donc voilà, du coup, il y a tout un travail sur l'accueil en tout cas de cet événement, donc, qui est ouvert à tous. Il y a encore quelques places, je crois, en billetterie, mais vraiment plus grand-chose. Donc là, on met en place un travail, notamment avec l'EDI de Lernée, pour pouvoir confectionner les repas des artistes, des bénévoles. On va avoir des bénévoles des foins qui vont faire de la décoration, de la mise en place. On aura une petite buvette sur place, donc qui sera tenue par des bénévoles. Et en fait, du coup, on mélange des bénévoles de la communauté de communes de Lernée et du festival au foin de la rue, enfin de l'association au foin de la rue. Et donc ça, c'est ça qui est riche aussi, c'est qu'on se rencontre et ça permet des fois de créer d'autres choses, de faire émerger d'autres envies.
Créer du lien, c'est aussi l'objectif de votre association. Je me suis posé la question de l'état de santé des festivals aujourd'hui, notamment après la crise sanitaire et un retour à la normale qui a quand même pris son temps. Il y a eu la fin des aides exceptionnelles. Aujourd'hui, le secteur est confronté à l'inflation qui est extrêmement forte. Le public est globalement revenu, mais avec des habitudes différentes, notamment avec des réservations plus tardives et peut-être davantage d'intérêt pour les artistes déjà repérés. Il y a une sorte de fossé qui se crée entre les quelques gros festivals et les autres. Si on se félicite de la qualité et de la richesse de nos festivals, est-ce qu'il faut s'inquiéter malgré tout pour eux, pour l'avenir ?
Bah, en fait, les festivals existent pour vous et on vit que grâce à vous. Donc, en fait, il faut qu'on ait des gens qui viennent entrer sur nos lieux pour pouvoir faire vivre ces petites pépites. Et en effet, on a cette complexité aujourd'hui, bah, le contexte économique qui fait que les gens ne multiplient peut-être plus de la même manière qu'avant la participation au festival. Donc, ils vont choisir sur des noms qu'ils peuvent connaître ou des choses qu'ils ont vraiment envie d'aller voir. Et puis, il y a aussi cette réflexion, en effet, de réservation plus tardive, même si nos billets Prems, en ce moment, apparemment, ça se vend plutôt bien, il ne reste plus beaucoup de place. Mais voilà, enfin, une réservation plus tardive parce qu'il y a les intempéries et donc à choisir, bah, peut-être que les gens vont préférer aller un peu plus tard quand il fera plus beau. Voilà, donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis, l'année 2024, on a besoin de vous, c'est très particulier, il y a les JO et ça rajoute énormément de complexité au montage de tous ces petits événements.
Il faut savoir qu'un festival, même sous la pluie, ça reste un beau festival, il faut s'équiper, quoi, avoir une cape de pluie, tout ce qu'il faut, des bottes, et puis en fait ça se passe très très bien, c'est une autre ambiance, mais ça reste très très chouette. Vous Ingrid, est-ce que vous avez grandi justement avec cette culture du festival? Parce qu'il y a une sorte de culture des concerts, mais le festival c'est encore autre chose.
J'ai découvert les festivals, j'avais 16 ans, voilà. Mon premier festival c'était les Eurocannes de Belfort, donc j'avais la chance de pouvoir vivre ça. Mmh. Et après, très vite, je suis venue sur les foins de la rue puisque j'habitais pas très très loin. Et en fait, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, on a souvent un mauvais a priori pour ceux qui ne connaissent pas les festivals. Ce n'est pas un enchaînement de musique, c'est un lieu de découverte. Bien sûr qu'on va être séduit par certains noms, mais si on se laisse guider et porter, on fait des découvertes sur des choses qu'on ne pourrait pas découvrir. Alors bien sûr, il y a des réseaux un peu alternatifs qui nous permettent de pouvoir découvrir musicalement d'autres choses, mais on reste tous pareils avec le flow des plateformes qui nous proposent toujours les mêmes titres. Donc venez dans les festivals, c'est du live, c'est de la musique vivante, et ça nous permet de faire vraiment des belles découvertes et d'agrandir notre ouverture sur la musique.
La rencontre live avec un artiste, c'est vraiment une très belle manière de découvrir un univers musical. Il est déjà possible d'acheter son pass pour le festival sur votre site internet, c'est bien ça ?
C'est ça, voilà, on est encore sur des billets Prums avec des tarifs préférentiels. Quand il n'y en aura plus, bah, on passera sur les tarifs qui sont réservés à tout le monde, donc dépêchez-vous.
Et pour vous soutenir au sujet de l'appel à dons, c'est également sur votre site internet que ça se passe.
Également, et puis vous pouvez aller, donc c'est sur, avec Hello Asso, donc vous allez sur Hello Asso, vous choisissez l'onglet au foin de la rue et ça vous permettra de participer à cette grande aventure que de créer un lieu dans un territoire rural qui permet l'ouverture musicale, sociale, culturelle.
Et vous êtes également sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu toutes les actualités de l'association et du festival.
Tout à fait.
Merci Ingrid d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, Lucie, tu nous présentes l'actu en bref. Mais d'abord, j'appuie sur play pour écouter Patrice qui figure dans les premiers noms annoncés pour cette nouvelle édition du Foin de la Rue. C'est un aventureux acclamé à Paris et à Berlin. C'est aussi un artiste qui, dans les collines jamaïcaines, construit de ses propres mains la maison et le studio dont il rêve depuis toujours. On écoute Soul Storm de Patrice. Now we're walking down an alley. Now I'm talking spiritually. We got one eye on the future and the other on our money. And all our feeling goes dead when we switch on.
try to switch up my head, use my soul instead. So I'll get ahead of these things. I said, there's a soul, soul, a soul storm everywhere. So everywhere, everywhere, a soul storm everywhere. I was told that dark is cheap. Some soul storming must be the benefit of the global warming. Realize that there ain't no harming. Blind and soul and the little farming. Some soul farming. There's a soul.
Allez, c'est parti, on passe au bref, chers auditeurs. Et pour commencer, à Renazé, samedi dernier 13 janvier, les parents des petits Renazéens nés en 2023 ont pu planter l'arbre des naissances 2023. Cette année, ce sont 16 nouveaux-nés qui sont devenus les parrains d'un Carolina Alésia, aussi appelé arbre aux clochettes d'argent, planté symboliquement pour symboliser la vie et la croissance. À Saint-Frimbaud-de-Prière, cette fois, il y a depuis peu une recrudescence de dépôts sauvages de déchets. La plupart du temps, c'est aux abords du barrage, où déjà les poubelles prévues pour les promeneurs sont souvent utilisées comme conteneurs. Éric Lelièvre, adjoint au maire, précise que c'est passible d'une amende allant de 135 euros à 1500 euros. Pour ceux qui en auraient besoin, sachez que les coordonnées des 5 déchetteries environnantes sont indiquées dans le bulletin municipal ou sur le site internet de la commune www.saintfrimbaudepriere.com. Donc vous n'avez plus d'excuses. Allez, on fait un petit tour à Laval maintenant dans le bilan des lumières de la ville. Nicolas Jiquel, directeur de l'office de tourisme, indique que le bateau de croisière, le Valis Gouy de Nice, a eu un taux de réservation exceptionnel en 2023. Cependant, le temps n'a malheureusement pas été de la partie et une vingtaine de croisières ont dû être annulées à cause du niveau trop élevé de la rivière. En parlant de Laval, je ne peux pas ne pas vous parler du Stade Lavallois. Et oui, ça y est, c'est les 16e de finale de la Coupe de France. Et de notre côté, le Stade Lavallois affrontera le FC Nantes ce samedi 20 janvier à 14h30.
Et puis pour terminer, un peu d'actu musical, les 20 janvier à Mayenne et 27 janvier à Évron auront lieu les concerts de sélection du dispositif Les Émergences. En quelques mots, c'est un dispositif de repérage et d'accompagnement de la scène musicale mayennaise, l'idée étant de permettre la rencontre d'un plus large public, de se faire connaître des professionnels et de faire évoluer le projet des groupes qui y participent. Cette année, les 6 artistes que vous pourrez voir sont Inside the Inside, le projet Altaïr, Twimble, Club Mutant, Medena et The Haystacks. Petit point météo avec Diego à présent. Il fait un peu meilleur au niveau température, avec 8 degrés dans le nord du département et jusqu'à 12 degrés dans le sud du département. Par contre, le soleil n'est pas au rendez-vous, c'est plutôt ambiance gros nuages dans le sud du département, voire pluie quand on remonte un peu plus dans le nord. Pas de jaloux, la pluie est partout dans le département à partir de ce début de soirée, avec des températures qui chutent à nouveau jusqu'à 3 degrés à Goron et 10 degrés à Cran. Diego, il va falloir qu'il soit prudent parce qu'il passe beaucoup de temps sur la route et dans la nuit, il y aura même des pluies verglaçantes à Lehors, par exemple. Demain, ce sera un peu mieux. Le soleil revient doucement avec le matin un ciel voilé un peu partout, ou presque, puisqu'à Évron et Villaines-la-Juhel, par exemple, il fera très nuageux en début de journée. Mais tout va bien, le soleil va revenir dans tout le département dans l'après-midi. Par contre, niveau température, on sera bien redescendu avec 0 à 2 degrés le matin, jusqu'à 4 degrés l'après-midi et progressivement on retourne à moins 2, moins 3, voire moins 4 degrés dans la nuit. Bon bah voilà, Diego il se dit qu'on ne peut pas tout avoir entre le beau temps et la température agréable. Lui, il fera très attention sur les routes puisqu'on est en vigilance jaune, pluie et neige verglas aujourd'hui et demain.
Ça fait quelques mois, Lucie, que tu nous as rejoints et tu continues donc de découvrir la Mayenne.
Tout à fait, Margot. Je découvre le territoire petit à petit, ses richesses, son patrimoine. Et dans les endroits qui me font tomber sous le charme de la Mayenne, il y a l'incontournable musée Robert Tatin. C'est à Cossé-le-Vivien, en plein milieu de la nature, et j'ai voulu profiter d'une visite pour enfants organisée en décembre pour m'y rendre. J'ai pu, avec eux, entrevoir toute la richesse de l'univers de Robert Tatin et échanger avec Laurence de Sèvres. Je vous y emmène avec moi.
Alors, je suis Laurence de Sèvres, je suis médiatrice culturelle au musée Robert Tatin. Donc, c'est un musée qui est au plein cœur de la nature, ici à Cossé-le-Vivien, avec une maison d'artiste et puis juste à côté de sa maison, l'archisculpture qu'il a construite dans ce qui était son jardin.
Alors, on va commencer par, si vous voulez bien, redéfinir ce que c'est une archisculpture.
Alors ici, il s'agit d'une œuvre monumentale sculptée, donc une architecture sculptée. Donc après, on a composé un mot-valise.
Et donc, vous expliquiez pendant la visite que Robert Tatin a construit tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de qui était Robert Tatin, de sa vie ?
Donc Robert Tatin, c'est quelqu'un qui est né au tout début du XXe siècle, en 1902, à Laval, et qui, à 60 ans, après avoir eu une vie riche, remplie de plusieurs expériences professionnelles, des rencontres artistiques, riche de toutes ces expériences, il est revenu s'installer dans sa Mayenne natale. Et là, il a construit toute une œuvre à côté de la maison de la Frénouse. Alors c'est multiple hein, puisqu'il a des formations dans plusieurs domaines. Alors tout d'abord dans le bâtiment, il a lui-même été entrepreneur dans ce domaine-là. Il a aussi été charpentier au trait. Dans les années 40, il est tout d'abord céramiste. Et puis ensuite, il part voyager, il part 5 ans en Amérique du Sud. Et là, il va pouvoir vraiment travailler sur les terres colorées. Il va explorer différentes voies de la céramique. Il va aussi rencontrer les architectures nouvelles avec les voiles de béton. Et donc, quand il revient en France, c'est riche de toutes ses expériences artistiques, de la reconnaissance internationale qu'il a déjà aussi, qu'il va continuer à créer et construire cette œuvre ici à Cossé-le-Vivien.
Vous parlez de reconnaissance internationale. C'était un artiste qui exposait déjà avant la création de son musée ici, du coup.
Oui, tout à fait. Il avait des relations avec un galeriste à Paris, Robert Steindecker. Avant son arrivée ici, il a aussi travaillé à Vence. Il était vraiment en relation avec le milieu artistique de l'après-guerre. Pendant qu'il était en Amérique du Sud, il a remporté le premier prix de la Biennale de Sao Paulo en céramique.
Autrefois, il n'y avait pas de portail ici, il n'y avait pas le muret. Donc, c'était une autre route. Hein. Et le long de cette route, Robert Tatin...
Alors, l'arrivée au musée se fait par une grande allée bordée de sculptures qui s'appelle l'Allée des Géants. Et cette allée, elle est bordée de 19 sculptures, c'est le chemin de vie de Robert Tatin. Il se raconte le long de cette allée, donc les visiteurs suivent avec lui son parcours de vie. Ils arrivent d'abord dans le monde de l'enfance, ils vont rencontrer des sculptures qui sont en lien avec les personnages qu'il a rencontrés sur les bancs de l'école, et puis petit à petit, ils vont avancer avec Robert Tatin dans les différents âges de la vie, jusqu'à rencontrer les artistes que lui considère comme sa propre famille artistique, ceux qui l'ont aidé à se former. Donc on va suivre ce parcours avec lui jusqu'à arriver au cœur du musée et découvrir l'œuvre qu'il a sculptée, hein, son archisculpture, et les artistes qu'il va considérer comme majeurs dans l'histoire de l'art.
Et donc on arrive dans cette archisculpture, est-ce que vous pouvez me la décrire en quelques mots? Comment est-ce qu'on l'appréhende quand on arrive en tant que visiteur et comment est-ce qu'on y rentre?
Alors la porte d'entrée, justement, c'est une grande question que les visiteurs se posent, puisque ce musée, il fait d'abord penser à un temple. C'est souvent le premier mot que nous disent les visiteurs. Ils voient l'évocation d'un temple et puis ils aperçoivent un dragon.
Il a créé sa créature imaginaire, son dragon, son gardien. Parce que ce dragon, c'est un gardien. C'est le gardien du musée qui est juste derrière.
Mais donne aussi un peu envie d'entrer dans le musée par là. Et donc les visiteurs ont cette question. Est-ce qu'on va pouvoir entrer par la bouche du dragon ? Donc le cœur du musée, on y entre par un espace qui s'appelle le jardin des méditations. Très souvent, ça laisse les visiteurs sans voix. C'est la première fois qu'ils entrent dans cet espace. Petit à petit, on va les amener à découvrir le monde que Robert Tatin a voulu recréer ici en miniature. Les différents éléments, la course du temps, la course du soleil. Et puis comment Robert Tatin nous guide progressivement jusqu'à entrer dans les salles du musée pour découvrir d'autres œuvres.
D'autres œuvres comme des toiles, ses céramiques, et ce qui nous permet de découvrir un peu la richesse de tout son univers finalement.
C'est ça, il y a également quelques lithographies, puis quelques œuvres textiles aussi.
Ici, donc, on voit un personnage qui est allongé. Est-ce que tout le monde le voit?
Oui.
Elle s'appelle Marie-Vonne, c'est écrit ici. Marie-Vonne, fille de lune, c'est le titre du tableau.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont exposés dans ce musée maintenant? Et est-ce que Robert Tatin avait cette volonté-là d'ouvrir le musée au plus grand nombre, y compris à des artistes qui exposent dans son musée?
Oui, ça fait vraiment partie de sa démarche. Il travaillait ici avec d'autres personnes. C'était la volonté vraiment d'établir ici un lieu de création. Et donc, il y a d'autres œuvres qui sont présentées. Alors, de manière permanente, il y a un champ de sculpture avec des œuvres contemporaines d'artistes qui ont pu exposer ici au musée. Et puis, juste dans la cour, au niveau de l'accueil, on a une fontaine qui s'appelle la Fontaine de la Solidarité, réalisée par Leb, un artiste mayennais.
Je m'appelle Aaron, je suis en CM2, j'ai 10 ans. J'ai bien adoré les statues, le dragon aussi.
Qu'est-ce que tu penses de l'univers de Robert Tatin?
Il a une bonne imagination et qu'il est fort pour refaire des sculptures.
J'ai bien aimé le bassin et les sculptures.
C'est la première fois que tu venais?
Oui, c'était bien.
Parce qu'on achète parfois sans réfléchir ou parce qu'on ne met plus tellement le nez dans nos contrats d'énergie qui nous coûtent bonbons cette année par exemple. Eh bien dans cette émission, on a un chroniqueur qui nous rappelle les bons gestes consommateurs et c'est Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne qui nous fait sa chronique dans quelques instants. Et si je dis quelques minutes, c'est parce que Lucie, tu as choisi un morceau.
Et oui Margot, chers auditeurices, il fait pas très beau aujourd'hui et puis mois de janvier, ça rime pour beaucoup d'entre nous avec petit coup de mou. Alors à défaut d'en avoir dans le ciel, j'ai eu envie d'en mettre un peu dans notre cœur, je parle de soleil. Et c'est pour ça que je vous propose un moment de légèreté et d'humour avec Il fait beau des frères Jacques.
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filochant ventre à ciel aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content.
Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud. Ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion.
Il fait chaud. Les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus, tant de choses à toucher. Il fait chaud,
il fait chaud.
Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres. On a beau être content, on se fait monter de la bière. Il fait chaud, faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud. Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux.
Il fait chaud.
Gaston restait sans voix.
Sa femme ne disait rien.
Alors l'autre type a dit, y a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud.
Vous croyez, dit Gaston,
je peux vous l'affirmer.
Gaston s'est dévêtu
et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction, il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris une partie de saute-moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il fait doux.
Il a pas de temps à perdre, s'il veut être revenu demain, on compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Pantin. Il fera beau,
il fera beau,
il fera beau.
Ça nous plaira bien.
L'UFC Que Choisir est notre chronique du jour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On écoute tout de suite Jean-Michel Guinaudot.
La chronique du UFC Que Choisir, 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, l'UFC Que Choisir, votre association de défense des consommateurs, a récemment fait parler d'elle au sujet de la santé.
Eh oui, il s'agit de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour que soit amélioré l'accès aux soins pour tous. En effet, tout le monde a été confronté à des délais beaucoup trop longs pour obtenir un rendez-vous chez un dentiste, un ophtalmo, quelquefois même simplement chez son médecin généraliste, quand ce n'est pas un refus pur et simple de prendre de nouveaux patients. Et dans certaines zones, on ne peut avoir de rendez-vous qu'avec un médecin pratiquement de dépassement d'honoraires.
Le prix de la consultation n'est donc pas fixé par l'État pour tous les médecins?
Pour faire court, les médecins passent une convention avec la Sécurité sociale. Il y a trois types de tarifs. On appelle ça des secteurs. En secteur 1, le patient paye le prix fixé par la Sécurité sociale, 25 euros aujourd'hui. En secteur 2, le médecin pratique le prix qu'il veut, le dépassement étant limité à 100% s'il a signé une convention qu'on appelle option, pratique, tarifaire maîtrisé ou OPTAM. Le patient est remboursé sur la base de 30 euros. Et en secteur 3, sans convention OPTAM, dit à tarif libre, le médecin pratique le prix qu'il veut et le patient n'est remboursé que sur la base de 61 centimes chez le généraliste, 1,22 euros chez le spécialiste. Et dans tous les cas, la Sécurité sociale rembourse 70% de ce qu'a payé le patient. Le remboursement par l'assurance complémentaire santé, qu'on appelle la mutuelle, dépendant du contrat. Et en général, plus la cotisation est chère, mieux on est remboursé.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à trouver un médecin ou un spécialiste?
Il y a plusieurs facteurs qui se sont combinés pour en arriver à la situation actuelle. Et le plus important a été, il y a une vingtaine d'années, la limitation des places dans des écoles de formation, le fameux numerus clausus. Il semble que les décideurs n'aient pas anticipé la démographie qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux médecins arrivent, d'un seul coup, à l'âge de la retraite. Et il y a le changement de mode de vie. Les médecins d'aujourd'hui n'acceptent plus de travailler 15 heures par jour, 6 jours sur 7, et on les comprend. Et la liberté d'installation, qui fait qu'un médecin qui a fait au moins 10 ans d'études, souhaite s'installer davantage dans le sud du pays, plus près des côtes, pour y faire de la voile, et de préférence dans une grande ville, pour y trouver un mode de vie plus agréable. Mais comme la vie dans ces zones est chère, ils sont amenés à pratiquer des tarifs libres, privant ainsi une partie de la population d'un accès facile aux soins. La libre concurrence n'a pas fait qu'à un moment donné, il y aurait trop de médecins ici, et donc que les nouveaux s'installeraient ailleurs, là où il en manque.
Qu'est-ce que vous préconisez alors ?
Eh bien, le principe de la concurrence n'ayant pas joué son rôle de régulateur, nous demandons tout simplement que l'installation de nouveaux médecins conventionnés soit soumise à une autorisation. Depuis longtemps, les pharmaciens sont soumis à cette règle, ce qui fait qu'on trouve facilement un pharmacien près de chez soi. Un accord similaire vient d'être conclu avec les dentistes pour la mise en place de ce système. Mais les médecins, généralistes, spécialistes, le refusent. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'agir.
Et alors, quelle est l'action de votre association ?
Eh bien, on a découvert que la Constitution prévoit une égalité des citoyens devant l'accès aux soins. Ce droit doit être respecté. Et l'UFC Que Choisir a donc fait un recours devant le Conseil d'État pour inaction. Nous proposons aux consommateurs de signer une pétition en ligne sur notre site quechoisir.org pour soutenir cette action. Et plus il y aura de signatures, plus elle aura du poids.
Merci Jean-Michel Guinaudot. Si l'on souhaite une aide pour un litige, pourriez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, à Mayenne ou à Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou tout simplement nous proposer vos services. Pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pour y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci, à bientôt. Votre soirée commence à 19h avec l'émission Novorama.
Et elle sélectionne pour vous de nombreux albums, plutôt indie rock ou pop électro. Elle interview et chronique sur des artistes de ces groupes émergents.
Et ce n'est que le début puisqu'on enchaîne à 20h
avec des mixtapes et les playlists fraîchement sélectionnées dans The Voice of Cassandre.
Et on n'est pas des couche-tôt, Lucie.
Mais non, puisqu'on sera à l'écoute de Chaosphère à 21h. L'émission aujourd'hui nous plonge dans l'album Icon de Paradise Lost, mais nous fait aussi découvrir la Dark Wave et la Dark Folk de Tenny.
C'était l'Agité du Local, votre émission quotidienne sur l'autre radio. On se dit à demain. On sera en compagnie, vous et moi, de Julien Moreau, co-scénariste et comédien pour la mini-série Startup Nation, un regard critique sur le monde du travail, pas sans un ton particulièrement humoristique. Rendez-vous à la même heure. D'ici là, vous le savez, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.